Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Seigneur, je te donne ma vie, ô mon Dieu. Et pourtant, ma vie n'est pas à moi-même, Seigneur. Elle est à toi. C'est toi qui as mis le souffle de la vie dans mes narines, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui as fait que je sois conçu un jour et que je naisse sur cette terre. Mais Seigneur, mon Dieu, alors que toi, tu fais toutes choses, alors que tout appartient, même nos vies, Seigneur, si je dis je te donne ma vie, c'est parce que cette vie, Seigneur, elle doit faire ta volonté. Et lorsque je te dis je te donne ma vie, Seigneur, je cède toutes mes volontés à la tienne. Seigneur, c'est vrai, tu nous as créés autonomes, libres du choix. Libres du choix, Seigneur, en nous avertissant. C'est vrai que nous avons le choix, Seigneur. Mais Seigneur, ces corps, ces vies, c'est toi qui les as faites et elles t'appartiennent. Seigneur, si je dis je te donne ma vie, c'est que j'accepte, Seigneur, de laisser de côté ma volonté, mes voies, mon chemin, ce que je pense. Seigneur, de le laisser de côté et de me donner toutes les priorités aux valeurs du royaume, aux valeurs éternelles. Car, Seigneur, je suis tellement ignorant quant à ces valeurs. Je suis tellement petit vis-à-vis de l'éternité. J'ai besoin que toi, Seigneur, tu prennes en main ma vie, tu prennes en main ma destinée, et que toi, Seigneur, qui connais toutes choses, tu fasses de moi ce que tu veux. Et j'ai confiance parce que je sais que tu veux toujours le meilleur pour ceux qui t'aiment. Ô Jésus, tu es bon Seigneur, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et c'est toi que nous voulons célébrer, et c'est de toi que nous voulons parler. Ô merci Père, tu es merveilleux. Alléluia. Alléluia. Seigneur, je te donne ma vie, c'est ce que nous venons de chanter, je te donne ma vie. Mais dans le fond, qu'avons-nous à lui donner? Qu'avons-nous à lui donner? Des vies qui ont été souillées, des vies qui ont été entraînées dans le désordre, dans toutes sortes de volontés propres et de convoitises. Des vies qui bien souvent ont été faussées par la façon de vivre du monde. Qu'est-ce que nous lui donnons? C'est simplement de le reconnaître. À le dire, Seigneur, nous retournons à toi tout ce qui t'appartient et nous voulons t'appartenir. Nous voulons t'appartenir, Seigneur, et que toi, tu aies ta volonté dans nos vies. Et que tu diriges ces vies selon la destinée que tu nous donnes. Car, Seigneur, tu veux le meilleur pour les tiens. Et nous te faisons confiance. Je pensais tout à l'heure, je te donne ma vie. C'est quelque chose de tout à fait relatif, parce que dans le fond, nous n'avons rien à lui donner, tout lui appartient. Tout lui appartient. Mais en chantant cela, nous voulons dire aussi, Seigneur, non pas ma volonté. Voilà. Bien souvent, ces vies qui ont été créées par Dieu, elles sont détournées par notre volonté propre et en faisant la volonté de l'ennemi qui nous déteste, parce qu'il déteste Dieu. Nous avons parlé ces derniers dimanches du roi de gloire. Et j'aimerais encore vous parler plus de ce roi merveilleux ce matin. Du roi de gloire, ce roi que Moïse a vu, ce Seigneur de gloire que Moïse a vu sur le mont Sinaï, duquel il a eu une révélation extraordinaire. Et il était en sa présence. à tel point que son visage en était devenu lumineux et qu'il devait porter un voile. Ce roi de gloire duquel nous avons parlé, que Esaïe a contemplé tout au début de son ministère, alors qu'il avait été appelé et inspiré par Dieu pour apporter son message, ce roi qu'il a entrevu là, dans son temple, et quand il a vu l'état d'abord de son pays, auquel Dieu avait inspiré un message qu'il a dû apporter, un message dur. Et il se sentait si petit devant cette responsabilité qu'il allait chercher la communion, la direction de ce roi dans son temple. Et là, il l'a contemplé dans une vision merveilleuse, dans sa gloire, assis dans son temple avec des séraphins qui crient « Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées ». La terre est remplie de sa gloire. Et il s'est vu devant cette vision tellement impure, tellement indigne. Mes lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Un autel, un charbon ardent. L'ange a pris un charbon ardent sur l'autel du sacrifice et en a touché ses lèvres en lui disant « Ton péché est expié ». C'est vrai, il n'y a que l'autel du sacrifice d'où vient la purification, quelle qu'elle soit, dont chaque individu a besoin. Et là, Dieu a dit, « Qui enverrai-je? Qui parlera pour nous ?» Esaïe a répondu, « Me voici, envoie-moi. » Et c'est ainsi qu'il a été un porte-parole pendant sa génération, un porte-parole du Dieu vivant. Et à travers le Saint-Livre, il nous parle encore par des messages inspirés qu'il a reçus du Dieu vivant. Et c'est ainsi que ce roi, ce grand roi, ce roi, ce créateur de toutes choses, est devenu homme et qu'il a accepté de devenir le serviteur parfait, lui, le roi. Il est devenu le serviteur parfait, né dans une étable, grandi sur cette terre, exerçant son ministère avec ses disciples. Lui, le roi, habillés comme ils étaient habillés, mangeant ce qu'ils mangeaient, dormant comme ils dormaient. Lui, le roi, il n'avait pas de suite spéciale pour l'accompagner là où il allait. Il marchait comme tout le monde marchait, dans les rues de Jérusalem, sur les routes de la Samarie et de la Galilée, prêchant le royaume des cieux, apportant le message du royaume. Lui, le roi, il était venu sur cette terre pour recruter des hommes et des femmes, pour recruter des militants pour son royaume. Pour son royaume, il n'était pas venu avec des armées comme un grand conquérant selon les normes du monde. Non, il a cherché d'abord, en tout premier lieu, à conquérir le cœur de ses créatures, en prêchant un message nouveau, en prêchant la parole de vie, en guérissant les malades, en ressuscitant les morts, en faisant du bien partout où il allait. Et c'est ainsi qu'il avait autour de lui des hommes auxquels il allait confier sa mission, cette mission qu'il a accomplie pendant 3 ans et demi, alors qu'il prêchait cet évangile de vie et de transformation. Il a pris ces hommes du peuple, afin de les former, de leur donner une formation. Alors qu'ils voyageaient, qu'ils allaient avec lui, ils apprenaient chaque jour, parmi eux, il y avait Jean. Jean, le disciple duquel qu'il aimait. Jean, qui était avec lui, sur le mont de la Transfiguration, avec Pierre et le frère de Jean qui s'appelait Jacques, son frère aîné. Jésus les a emmenés sur le mont de la Transfiguration. Oui, le roi. Ils ont marché avec le roi sans comprendre qui il était. Et là, ils l'ont vu transfiguré. entouré de gloire, dans son corps de chair, dans son corps d'homme, qu'il avait choisi pour s'identifier à l'homme, le fils de l'homme, tel était son titre. Mais il était fils de Dieu, fils parce que né d'une femme, né dans ce monde, avec une nature telle que nous avons, lui le roi, le voilà transfiguré. Et les disciples ont contemplé sa gloire, là sur la montagne. Nous en avons parlé dimanche dernier. Les temps ont passé. Il a été crucifié. Lorsqu'il a été ainsi glorifié sur le mont de la transfiguration, c'était peu de temps avant sa mort, avant la croix. Il est mort sur le bois. Les disciples sont déconcertés. Nous pensions qu'il serait celui qui délivrerait Israël. Voilà les paroles des disciples d'Emmaüs. Nous pensions qu'il serait celui qui délivrerait Israël. Mais voilà que depuis 3 jours, plus de 3 jours, il a été crucifié et il est mort. Oui, c'est vrai. Il a porté le péché de l'humanité et Satan a l'air d'avoir réussi dans son plan de destruction et de haine. Il a été mis dans le tombeau, mais il est ressuscité d'entre les morts. Il est apparu à eux combien de fois? Il est apparu alors que toutes la pièce où ils étaient était complètement close. Le voici au milieu d'eux. Il le voit, il le touche, il mange avec eux. Il le touche. En effet, ce n'est pas un esprit. Il a un corps. Et pourtant, quand il disparaît, sans ouvrir aucune porte. Voilà le roi qui monte au ciel en ce jour de l'ascension. Et les disciples le voient partir. Jean était là, avec son frère Jacques, et Pierre et les autres disciples. Ils l'ont vu. Ils l'ont vu dans sa gloire, et la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Ils ont vu sa gloire, le temps a passé, et voici que Jean est enfermé. Il est enfermé là, sur cette île, et il est dans les travaux forcés sur l'île de Patmos. Dans les travaux forcés, il doit extraire la pierre dans une carrière des Romains, ces pierres avec lesquelles ils faisaient les routes qui ont parcouru toute l'Europe à cette époque-là. Et il était là, prisonnier, dans des travaux forcés, sur l'île de Patmos, persécuté pour sa foi. Chaque jour, Jean est là, il peine sous le soleil ardent dans cette carrière, sous la garde de soldats romains qui n'étaient pas tendres avec les prisonniers. Condamné au travail forcé. Voilà. Il passe ses nuits dans une grotte, tout près du feu, enroulé dans son vieux manteau. Mais Jean n'a pas oublié son Seigneur. Et c'est pour lui, et c'est pour son nom, qu'il souffre, qu'il endure toutes ses peines, toutes ses souffrances. Et tout cela lui semble peu de choses vis-à-vis de la gloire à venir. Oui, frère, plus tard, bien plus tard, Paul a écrit lui-même que rien n'est comparable à la gloire à venir. Les souffrances du temps présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. Que sont donc ces souffrances que nous devons endurer, et qui nous sont imposées par un monde païen, par un monde méchant et rebelle, qui n'aime pas Jésus, qui n'aime pas la nouvelle vie qu'il nous donne, qui ne veulent pas croire et qui refusent de croire en sa parole, et qui, à cause de cela, nous persécutent. Si nos frères ont été persécutés dans le passé, ne pensez-vous pas qu'à notre tour, il viendra peut-être un moment où nous serons persécutés, où nous serons condamnés aux travaux forcés, où nous serons battus de verges, où nous serons jetés en prison, ou nous serons peut-être même mis à mort. Frères, sœurs, qu'est-ce qui va nous faire tenir? Et qu'est-ce qui a fait tenir dans le passé des milliers et des milliers d'hommes et de femmes qui ont préféré la mort plutôt que de renier Jésus? C'est la vision de du Dieu et du Dieu puissant et de la gloire, la vision du roi des rois, de celui qui règne d'éternité en éternité. Si nous n'avons pas eu cette vision dans notre cœur, cette expérience personnelle avec lui, cette marque particulière qu'il nous a donnée par une expérience personnelle avec lui, nous n'avons qu'une religion morte, mais celui qu'il a rencontré, cet homme-là, même à travers les pires souffrances, aura devant lui la gloire à venir, qui l'aidera à tenir, quelles que soient les souffrances du temps présent. Jean était là, et il cassait des pierres, et il travaillait tous les jours. Mais dans son âme, il gardait cette vision qu'il avait eue de ce roi merveilleux et glorieux qu'il avait vu sur le mont de la Transfiguration, du règne du Seigneur de gloire. Il a eu le privilège, Jean, de le connaître et de le suivre dans son humanité. Peu d'hommes l'ont vu dans son humanité, mais Jean et son frère Jacques et Pierre et tous les autres disciples l'ont vu dans son humanité. Ils n'ont pas compris qui il était au départ. Mais alors qu'il leur parlait, alors qu'il était avec lui, ils l'ont reconnu. Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et nous avons connu que tu as les paroles de la vie éternelle. À qui irions-nous d'autre qu'à toi? Voilà les pensées qui fortifient Jean tous les jours, alors qu'il est là sur cette île, prisonnier. Son frère aîné, Jacques, est mort depuis longtemps. Il a été arrêté et décapité par Hérode, le roi Hérode, tout au début de son ministère, alors que le maître était déjà monté au ciel, qu'il avait payé le prix de la rançon de l'humanité en mourant à la croix et qu'il était ressuscité d'entre les morts. Jacques était témoin de toutes ces choses-là. Il leur avait dit qu'il serait persécuté à cause de son nom, ce maître. Et déjà tout au début, voici les persécutions qui viennent. Jacques est arrêté, frère aîné de Jean, et il est décapité. Pourquoi donc? Alors que presque en même temps, Pierre avait été arrêté et jeté en prison. Mais le Seigneur a envoyé un ange, pour le réveiller, pour faire tomber ses chaînes et le faire sortir de la prison, alors que tous les gardes étaient endormis. Oui, parce que Dieu avait une tâche pour Pierre à accomplir. Il sera crucifié sur une croix, la tête en bas, bien plus tard, lorsqu'il aura terminé son ministère. Mais il est mort en héros, aussi bien que Jacques et tous les autres disciples. Et Jean, il a vécu en héros. Il est mort, un de ceux qui est mort de vieillesse. Mais souvent, il est plus pénible de maintenir un témoignage dans les persécutions et dans la souffrance que de mourir en un instant sous l'épée ou sous les armes. Oui, le maître leur avait dit qu'il serait persécuté pour son nom. Le maître, le roi qui était un exemple en toutes choses, il leur avait confié la tâche de conduire et de poursuivre l'œuvre qu'il avait commencée. Et pour ce faire, ils avaient reçu son esprit. Ils avaient reçu son esprit en ce jour mémorable de la fête de la Pentecôte dans la ville de Jérusalem. Son frère, le frère de Jean, était avec eux en ce jour. Lorsque le Saint-Esprit est descendu dans cette chambre haute, il était parmi les 120, Jean et Jacques, ils étaient parmi les 120, et ils ont vu le Saint-Esprit descendre sur eux, sous la forme d'une flamme de feu qui se posa sur chacun d'eux, et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et commencèrent à s'exprimer en d'autres langues, en des langues qu'ils ne connaissaient pas. Mais ils disaient les merveilles de Dieu, à tel point que tous ceux qui venaient des pays étrangers à Jérusalem pour adorer en cette fête de Pentecôte et qui connaissaient ces langues des pays étrangers s'étonnaient d'entendre ces hommes parler et dire des merveilles de Dieu et louer Dieu dans ces langues étrangères sans les connaître, mais inspirés par le Saint-Esprit. Oui, il était là, Jean, en ce jour-là, avec son frère Jacques. Tout ce qu'il a vu et entendu, il le repasse dans son cœur. Combien de fois, alors que le soleil brûle, alors qu'il casse ses pierres, alors qu'il reçoit à l'occasion des coups de fouet, il pense à ces choses-là, et ces choses retiennent sa foi vivante. Elle l'aide dans son épreuve. Les repas qu'il prend là, en tant que prisonnier, ce n'est pas de la nourriture de première qualité. Même, on leur donne de la viande avariée et rien n'est préparé avec soin. C'est grossier et c'est une nourriture malsaine. Mais Jean remercie le Seigneur pour ce qu'il lui donne en ce jour. Sanctifie cette nourriture, Seigneur, pour me rendre fort afin de tenir le coup dans le témoignage de Jésus-Christ. Et je suis sûr que cette nourriture n'a jamais fait aucun mal dans le corps de Jean. Pourquoi? Parce que Dieu veille sur les siens. Mais pourquoi, Seigneur, est-ce que tu ne me délivres pas de la main de mes ennemis? Mais pourquoi, Seigneur, toi que j'ai vu sur le mont de la transfiguration, toi que j'ai vu après ta résurrection, toi que j'ai vu monter au ciel dans la gloire, toi que j'ai entendu et que j'ai prêché, m'oublies-tu? Me voici maintenant ici comme un esclave, Seigneur, tenu par des hommes païens qui croient dans des multiples dieux, ignorants de ta personne. Seigneur, me voici ici qui souffre. Vas-tu me laisser là? Jusqu'à quand? M'as-tu oublié? Seigneur, s'il te plaît. Oh non, Jean n'a pas abandonné. Jean attend. Il sert le Seigneur. Que ce soit dans le bienfait ou que ce soit dans le malheur, il ne va pas l'abandonner. Il sait en qui il a cru. Que sont les souffrances du temps présent vis-à-vis de la gloire à venir? Il l'a déjà entrevu, cette gloire. Il l'a déjà entrevu dans la personne avec qui il a été à travers la Judée et la Samarie et Jérusalem. Il a vu cette gloire dans celui qui priait pour ses ennemis. Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Il l'a vu dans cette résurrection, ce tombeau ouvert. D'abord, il était perplexe. Il ne savait pas où a-t-il disparu. Mais bientôt, il s'est souvenu de ce qu'il avait dit, qu'il ressusciterait d'entre les morts. Il l'a vu dans son corps nouveau. Alors, rien des souffrances du temps présent, de la pauvreté, du semblant d'abandon, rien ne peut le séparer de ce qu'il a vu, de ce qu'il a connu. Et il tiendra ferme jusqu'au bout. Voilà, dans l'épreuve, Jean, après un certain nombre d'années, a été libéré par l'empereur romain qui prendra la succession de celui qui venait de mourir et sous l'autorité duquel il avait été mis en prison. Et il termina sa vie à Éphèse, nous dit l'histoire. J'aimerais que vous puissiez le voir là, sur cette île de Patmos. Il a eu des révélations merveilleuses. Écoutez, mes frères, comment se fait-il que Dieu révèle des choses extraordinaires à un homme condamné aux travaux forcés, qui ne mange pas toujours à sa faim, qui mange de la mauvaise nourriture, à un homme qui reçoit des coups de fouet, à un homme qui souffre tous les jours, à casser des pierres, à porter de lourds fardeaux, à un homme qui est insulté par les autres? Il que Dieu choisisse un tel homme pour donner de telles révélations, car c'est là qu'il a eu la révélation du dernier livre de la Bible. Frères, sœurs, le premier livre de la Bible, la Genèse, c'est le livre du commencement, Dieu l'a montré, Dieu l'a révélé à Moïse. À Moïse qui a écrit sous l'inspiration du Saint-Esprit, qui a écrit selon la tradition orale et selon l'Esprit Saint qui lui a révélé les choses qu'il devait mettre pour notre connaissance. Pour notre connaissance dans le but de nous révéler Jésus-Christ. Car le but de chaque livre de la Bible est de nous conduire vers la révélation finale de Jésus-Christ, le Seigneur. Et ce livre de l'Apocalypse représente, pour ainsi dire, la clôture de l'histoire merveilleuse. Le but final, l'apothéose, le point culminant, voilà, de l'histoire spirituelle, voulue par Dieu, voulue que Dieu a voulu que l'homme connaisse par sa parole. Sur cette île de Patmos, à cet homme prisonnier, à cet homme plein de marques de coups, à cet homme qui souffre, Dieu a donné des révélations merveilleuses. À quelle heure du jour ou de la nuit cela lui est-il arrivé? Nous ne le savons, mais nous savons une chose, c'est qu'il a eu cela, comme il est dit, au jour du Seigneur. Le jour du Seigneur. Vous savez que dans l'ancienne alliance, ils avaient le sabbat. Le sabbat qui était mis à part pour Dieu. Le sabbat pendant lequel il devait célébrer le Seigneur de gloire. Mais depuis que Jésus-Christ a été crucifié sur la croix et qu'il est ressuscité d'entre les morts, il est ressuscité le premier jour de la semaine, c'est-à-dire le dimanche, tous ceux qui ont suivi Jésus ont mis à part le jour du dimanche, le jour de la résurrection, pour le célébrer, car nous ne célébrons pas un Dieu mort, mais un Dieu vivant qui est sorti plus que vainqueur du tombeau. Alléluia! Plus que vainqueur du tombeau. Et c'est en ce jour particulier, choisi par Dieu. Combien de temps dura cette révélation? Combien de temps a-t-il fallu à Jean pour avoir la connaissance de toutes ces choses? Mais je suis sûr que là, sous l'onction du Saint-Esprit, Jean s'est dépêché de réunir des morceaux de parchemin qu'il trouvait ici et là, peut-être des morceaux de parchemin qui avaient été négligés ou rejetés, et que sais-je. Et rapidement, il a écrit, alors qu'il était sous l'inspiration du Saint-Esprit, tout ce qu'il a vu, parce que Dieu l'avait choisi pour rédiger le dernier livre de la Bible. Le dernier livre de la Bible, oui, car la Bible ne serait pas complète sans le livre de l'Apocalypse. Dans Apocalypse chapitre 1, verset 9, nous lisons, « Moi, Jean, il le dit bien, moi, Jean, ici, il donne son nom. » Combien de fois dans le passé, alors qu'il était question de lui, alors qu'il écrivait de lui-même, il ne donna même pas son nom. Il prenait une autre tournure de phrase. Il ne voulait jamais se mettre en avant. Combien de fois il est dit « celui que Jésus aimait ». Ah, ça, c'est un titre, je vous dis. Ça, c'est un titre. « Celui que Jésus aimait ». En tout cas, nous devons ambitionner d'avoir un tel titre, une telle position, « celui que Jésus aimait ». Ici, il écrit carrément son nom. « Moi, Jean ». Oh, déjà, son corps est amaigri. Il a des cheveux blancs, une barbe qui devient toute blanche. Les années ont passé. Nous ne savons pas exactement combien d'années il avait à ce moment-là, mais il était déjà bien avancé en âge, car il est celui des disciples qui est mort le tout dernier. Le tout dernier. Et quand il était avec Jésus, il était tout jeune. Tout jeune. « Moi, Jean, dit-il. » C'est un homme qui peut parler, parce qu'il a suivi le Maître pendant combien de temps? Il l'a suivi non pas seulement sur les routes de Galilée ou de la Judée ou de Jérusalem, mais il l'a suivi après sa mort, après sa résurrection, après son ascension. Et il a proclamé ce message d'amour, ce message merveilleux. « Moi, Jean, qui suis votre frère, dit-il, Apocalypse 1:9. Moi, Jean, qui suis votre frère. » Voilà ce qu'il dit. « Oh, merci, Seigneur. » Il n'a pas dit « Moi, Jean, le révérend tel et tel. » Il n'a pas dit « Moi, Jean, le fondateur de l'organisation telle et telle. » Il n'a pas dit « Moi, Jean, le prophète. » Il n'a pas dit « Moi, Jean, le bishop ou que sais-je encore. » « Moi, Jean. » Non, il n'a pas dit cela. N'aurait-il pas eu le droit de se donner un qualificatif quelconque? Eh bien non, il ne s'est pas considéré comme ayant droit à porter aucun qualificatif. Pourquoi? Parce qu'il sait que tout est donné par grâce. Et si c'est donné par grâce, il n'y a aucun mérite. Il n'y a aucun mérite, frères et sœurs. Moi, Jean, qui suis votre frère, je ne suis rien d'autre que votre frère. Je ne suis pas votre pape. Je ne suis pas votre évêque. Je ne suis pas votre au sens que l'on donne aujourd'hui. Puisque évêque veut dire ancien. La Bible nous parle des anciens. Mais on considère que évêque est supérieur à ancien. Alors que évêque et ancien sont égaux l'un à l'autre. Aujourd'hui, nous avons transformé tout cela. Parce que nous cherchons à nous gonfler. À nous gonfler. Mais Jean, alors qu'il est déjà âgé. Alors qu'il a souffert. Qu'il a souffert grandement déjà. Il dit, moi Jean, qui suis votre frère. Oui, qui suis votre frère. Il est en train d'écrire ce qu'il a vu. Il est en train d'écrire ce qu'il a entendu. Donc, il ne se gonfle pas parce que Dieu l'a choisi pour lui faire écrire le dernier livre de la Bible. Non. Moi, Jean, qui suis votre frère et qui prend part à la tribulation. Voilà. Je suis votre frère et j'ai une part dans la tribulation. J'ai une part et je prends part délibérément dans la tribulation, parce que si mon maître a dû à souffrir, moi qui suis son disciple, j'aurai aussi à souffrir. C'est vrai que je souffre, mais c'est un honneur pour moi que de souffrir pour un tel maître. C'est un honneur pour moi que de souffrir pour celui duquel j'ai eu une révélation merveilleuse. Je n'oublierai jamais lorsque je l'ai vu, lorsqu'il était dans son corps humain. Dans son corps humain, je n'oublierai jamais la gloire qui était autour de lui et les paroles que nous avons entendues. Oui, certes, s'il était plus qu'un homme, quoique ayant le corps d'un homme, qui prend part à la tribulation, oui, mais aussi qui prend part à la royauté. Pourquoi j'ai une part à la royauté? Parce que par la nouvelle naissance, je suis venu et entré dans la famille de Dieu, dans la famille du roi. Mon Père est le roi des rois, est le Seigneur des seigneurs. J'ai part à la royauté, alléluia, parce que je n'ai pas abandonné les souffrances que j'ai maintenant. Je les endure à cause du roi. Et ce roi, j'appartiens à sa famille. Qui peut me faire abandonner le chemin que j'ai choisi? Qui prend part à la tribulation? Qui prend part à la royauté et à la persévérance en Jésus-Christ? Oh oui! Ce n'est pas quelqu'un qui a abandonné dès les premiers problèmes. Ce n'est pas quelqu'un qui a abandonné dès qu'il a manqué d'argent. Seigneur, tu m'as appelé. Tu m'as appelé pour le ministère. Mais Seigneur, tu sais que j'ai besoin d'une voiture, tu ne m'as pas donné de voiture. Tu sais que j'ai besoin de suffisamment d'argent, tu ne m'as pas donné suffisamment d'argent. Tu sais que j'ai besoin de l'argent pour le collège de mes enfants, tu ne m'en donnes pas. Tu sais que, Seigneur, je n'ai qu'un seul costume. Comment te veux-tu que je me présente devant les gens avec un seul costume? Il faut que je puisse changer. Seigneur, ah ah, tu crois que c'est ça, le servir le roi des rois? Tu ne sais pas que certaines fois tu as passé à travers des chemins difficiles, oui, même de manquements, oui, tu auras besoin d'argent. Et tu vas dire, Seigneur, s'il te plaît, viens à mon secours. Mais, malgré tes besoins, malgré qu'il semble que Dieu ne répond pas à tes besoins les plus élémentaires, persévère! Persévère! Quoique persécuté, Jean a continué à persévérer. Il a été arrêté, il a été condamné. condamné aux travaux forcés. Le voilà sur une île, impossible de s'échapper. Il souffre, c'est vrai, mais il persévère. Ce n'est pas pour cela qu'il va dire à Dieu, « Tu m'as abandonné, Seigneur, pourquoi tu ne viens pas à mon aide, Seigneur ?» Et voilà, Seigneur, s'il te... écoute, je ne sais pas ce qui se passe. Maintenant, tu me laisses tomber. Oh là là, et il se plaint de lui-même. Non, je suis sûr que chaque jour, alors qu'il se levait et qu'il allait faire son travail forcé, Jean, il avait devant lui la vision de la gloire de Dieu. Il avait devant lui la vision de ce qu'il avait vu, de ce qu'il avait entendu. Oui, il l'a vu monter au ciel. Et qu'est-ce qu'il a dit quand il est monté au ciel ? Je reviendrai de la même manière. Alléluia. Je ne sais pas quand tu vas venir, Seigneur. Pour l'instant, je suis dans un temps de souffrance. Il semble que tu m'as abandonné. Mais Seigneur, je persévère et je persévérerai jusqu'à la fin. Et la persévérance en Jésus-Christ. Et il continue en disant, « J'étais dans l'île appelée Patmos. J'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole et du témoignage de Jésus. » Voilà. À cause de la parole et du témoignage de Jésus. C'est à cause de cela que je suis enfermé ici. Et c'est à ce moment-là que je suis ravi. Que je fus ravi. Il a dit « je fus » parce qu'il a écrit après avoir été ravi et avoir connu tout ce qu'il a écrit. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. C'était un dimanche. Je ne crois pas que ces païens de Romains célébraient le dimanche. Ils adoraient des multiples dieux, je ne sais. Peut-être que c'était un jour de relâchement que Dieu avait voulu donner parce qu'il voulait parler à son serviteur et que, subitement, ils ont dit, « Bon, demain, il n'y aura pas de travail. Restez là où vous êtes. Et surtout, pas de bagarre. Autrement, gare. » Au jour du Seigneur. Voilà. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur. Les dernières pages de la Bible devaient être écrites. Et Dieu a choisi un homme qui était prisonnier dans les travaux forcés pour écrire les dernières pages de la Bible. La Bible sans l'Apocalypse aurait été incomplète. Il fallait le triomphe du ressuscité. Elle nous raconte, ces pages de la Bible, le triomphe du roi. Du roi qu'a vu Ésaïe dans son temple, du roi qu'a vu Moïse dans le passé, du roi que les disciples ont vu dans une chair humaine comme la leur, du roi ressuscité d'entre les morts qui leur est apparu, du roi qui est venu, qui est monté au ciel. Oui, ce livre nous raconte le triomphe de ce roi. Apocalypse veut dire Révélation. Ce n'est pas synonyme à catastrophe. Ce n'est pas synonyme à fléau. Ce n'est pas synonyme à malheur, Apocalypse. À tout moment, nous entendons les païens de ce monde, c'est comme ça que je les appelle. Les païens de ce monde, lorsqu'il y a un cataclysme quelque part, ils parlent d'Apocalypse. Apocalyptique, disent-ils. Pauvre ignorant. Apocalypse veut dire révélation. Dieu nous a révélé son plan dans ce livre à travers Jean. Jean qui était appelé à exprimer des choses qu'il ne connaissait pas. Et pour cela, il a employé un langage imagé. Jamais à cette époque-là, on avait vu un moteur tourner. Ça n'existait pas. Jamais on avait vu un avion voler, ça n'existait pas. Et quand on voit aujourd'hui ces avions, avec des mitrailleuses devant, derrière, sur les côtés, et que sais-je encore, qui portent des bombes et des missiles de tout genre, comment expliquer ça dans le récit biblique, si ce n'est que par des sauterelles, si ce n'est que par des êtres imagée qui crache le feu, et que sais-je encore. Et du reste, le dragon, à travers tous les âges, il a représenté Satan. Et dans l'Apocalypse, il est parlé du dragon. Et il est clair qu'il s'agit de Satan. Mais les hommes qui, aujourd'hui, lisent ce livre avec leur intelligence bornée, sans avoir la connaissance spirituelle des choses, ils appellent ça impossible, imagé, légendaire, et que sais-je encore. C'est comme l'autre jour, j'entendais sur la chaîne Planète, à la télévision, qui certaines fois passe de très bons programmes, mais alors là, quand ils parlent de la Bible, les pauvres gars, ils s'égarent complètement. J'en étais révolté. Ils parlaient de la contradiction des disciples dans leur récit. Oh, on est tellement supérieur aujourd'hui. On peut tout expliquer. J'ai écouté jusqu'au bout, mais j'étais énervé, j'avais envie de casser la télévision. Mais ça, ce sont les hommes d'aujourd'hui. L'incrédulité et le doute dans la parole de Dieu. C'est pour cela qu'ils sont perdus. Et dire encore que parmi ces hommes qui parlaient, il y avait des théologiens avec un grand T comme ça. Quelle pauvre théologie. Oui, l'Apocalypse, c'est l'histoire du roi qui triomphe de ses ennemis. Du roi qui emmène ses fidèles avec lui, et qui juge les rebelles. Voilà ce que c'est. C'est la page finale, c'est le point final de ce livre qui s'appelle la parole de Dieu. Lisez-le, je vous en supplie. Et que lisons-nous pour nous aujourd'hui? Dans Apocalypse chapitre 11, verset 15, il est dit là. Le septième ange sonna de la trompette, et des voix fortes retentirent dans le ciel et dirent : le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il règnera au siècle des siècles. Alléluia. Il règnera au siècle des siècles. Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ, son Messie. Seigneur, celui qui domine. Seigneur, celui qui est roi. Celui qui dirige. Et à son Christ, le Messie. Il règnera au siècle des siècles. Il est entré dans la présence du Seigneur de gloire, Jean. Il est rentré dans sa présence et il a entendu des choses extraordinaires. De celui qu'il a connu lors de son pèlerinage ici-bas sur la terre. Là, il eut une révélation, une vision du Christ roi. J'en vis une merveilleuse manifestation de Christ dans sa gloire, devant ses yeux, dans un éclat fortement diminué, pour que j'en puisse le supporter. Mais malgré cela, dans Apocalypse 1, 17, il tomba à ses pieds comme mort. Le Seigneur posa sa main droite sur lui en lui disant : sois sans crainte. Sois sans crainte. La vision que Jésus a de la personne de Jésus, de celui qu'il avait vu, là sur le mont de la transfiguration, c'est une vision qui dépasse tout ce qu'il a connu jusque-là. Il le décrit par des termes comme semblables à... Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de vocabulaire humain qui puisse le décrire. Il prend un vocabulaire imagé. Vous pouvez le lire vous-même dans Apocalypse chapitre 1er. Il décrit ce Seigneur, cet homme transformé dans sa gloire. Et sa description est comparable à celle que donne Daniel au chapitre 10 de son livre. Il tomba à ses pieds comme mort. Le Seigneur posa sa main droite sur lui en lui disant : sois sans crainte. Ils voient le Christ, le Messie, tant attendu, couronné roi de l'univers. Et Apocalypse 11, 15 que nous venons de lire, le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il règnera au siècle des siècles. Il est passé à notre Seigneur et à son Christ. Pourquoi il est passé? Eh bien, tout simplement parce que pendant une période de temps, ce royaume lui a été arraché par Satan. Il lui a été enlevé, usurpé. Sa royauté a été usurpée parce que l'homme s'est soumis à l'autorité de Satan et il s'est éloigné de l'autorité de Dieu. Et c'est ainsi que le monde entier a été jeté dans le péché et dans la confusion telle que nous le voyons. À tel point que déjà, à un moment donné, Dieu, fatigué de la rébellion des hommes, a décidé de les détruire. Il n'a trouvé dans l'humanité de l'époque qu'un homme avec sa femme et sa famille, ses fils et ses belles-filles et ses beaux-fils, Noé, et qu'il a fait échapper au recyclage du monde. Il a détruit l'humanité entière et il a recyclé dans la personne de Noé un homme juste. Malheureusement, le monde est retombé dans le péché, car le péché était enraciné dans le cœur de l'homme. Et c'est ainsi que petit à petit, Dieu a avancé. Il a cherché un peuple. Il s'est créé un peuple à travers un homme fidèle. Un peuple à travers lequel il voulait se manifester au monde pour le délivrer du joug de Satan. Jusqu'au moment où Jésus est venu. Le Saint-Esprit a vivifié le corps de Jésus qui avait été cloué au bois par le dominateur de ce monde, c'est-à-dire Satan. Il était pendu au bois, il est mort en tant qu'homme. Il était mis dans le tombeau, mais le Saint-Esprit a vivifié son corps. Il a vaincu le dernier ennemi qui est la mort, parce qu'il n'est pas resté dans le tombeau, mais il est ressuscité d'entre les morts. Il s'est relevé, triomphant. Il était en train de regagner son royaume, usurpé par Satan. Souvenez-vous que quand il était tenté dans le désert, Satan lui a dit « Je te donnerai tout cela ». Quand il a dit « Je te donnerai tout cela », c'est vrai, c'était à lui. Il l'avait volé, il l'avait usurpé, et il savait que le roi Jésus venait pour reconquérir son royaume. Le royaume de ce monde lui est remis. Il a vaincu l'ennemi sur la croix. Satan est vaincu. Le péché est anéanti. La mort a perdu tout pouvoir. Lui, le roi, a un pouvoir absolu et unique et universel. Il est l'autorité suprême. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois de la terre et de l'univers. Dans le monde d'aujourd'hui, il n'a pas encore imposé son règne. Nous avons lu ici, le septième ange sonna de la trompette et des voix fortes retentirent dans le ciel en disant « Le royaume du monde est passé à notre Seigneur et à son Christ. Il règnera au siècle des siècles. » Il est passé. Il a été sous la domination de Satan. Maintenant, il est passé sous l'autorité du roi, du véritable propriétaire. Mais dans ce monde d'aujourd'hui, nous ne voyons pas encore qu'il ait régné et saisi les rênes des gouvernements de ce monde. Non, son règne, ce monde, est encore dominé par Satan. Il attend encore, qui? Le Seigneur de gloire. Que ses serviteurs attendent avec impatience. Et ils disent, Seigneur, jusqu'à quand? Il attend qu'il impose dans ce monde, qu'il s'impose dans ce monde corrompu, qu'il impose son régime. Il appelle et frappe aux portes des cœurs. Et cette période d'attente, qui a maintenant 2000 ans, cette période d'attente, c'est la période de la grâce. Dieu a donné un délai, vous m'entendez, afin que rentre sous l'autorité du roi des rois le nombre d'hommes et de femmes qui l'accepteront selon un nombre qu'il a fixé lui-même. Il appelle et il frappe aux portes des cœurs, cherchant une acceptation volontaire des hommes. Et il envoie ses messagers à travers le monde, ce monde encore dominé par les puissances sataniques, par les esprits mauvais, mais qu'il contrôle. N'ayez pas peur de ces puissances mauvaises qui vous entourent. Elles sont contrôlées par le Seigneur de gloire et par son esprit. Si vous marchez avec lui, ils ne pourront rien contre vous. Son règne est déjà établi dans le cœur de milliers et de millions d'hommes et de femmes à travers tous les âges. Cela compose son royaume. Quand on parle de royaume, on ne parle pas d'abord en premier lieu de possession de territoire et de terre et de biens. Mais quand on parle de royaume des cieux, on parle d'abord d'hommes et de femmes dans lesquels il règne. Et son royaume a déjà commencé ici-bas sur cette terre, dans les cœurs de ceux qui l'acceptent. Son règne est déjà établi dans le cœur de milliers d'hommes et de femmes qui l'ont reçu, qui l'ont accepté, qui l'ont reconnu comme leur sauveur personnel. Le jour vient où il imposera à cette terre rebelle, il imposera à cette terre rebelle son gouvernement. À tous ceux qui n'ont pas voulu son règne, il imposera son gouvernement, ses lois. Il dirigera les nations, la Bible nous dit, avec un sceptre de fer, symbole de la force, symbole de l'exigence, symbole des lois rigides qu'il va imposer aux hommes. Ces lois ne vont pas être votées, vous m'entendez? Sur les hommes, oui. Sur ceux qui resteront sur cette terre après les jugements. Beaucoup d'hommes et de femmes vont disparaître dans des guerres effroyables, dans des jugements effroyables, dans des cataclysmes de tout genre. Mais il y aura un reste d'hommes et de femmes dans leur chair, après le retour du Seigneur. Nous qui avons cru, nous serons partis, nous aurons notre nouveau corps. Mais au moment où il reviendra pour établir son règne de 1000 ans sur la terre, il règnera à Jérusalem avec un sceptre de fer. Il va discipliner cette humanité qui reste sur la terre. Il n'y aura plus de maladies, il n'y aura plus de magouilles. Il va discipliner ceux qui seront sur cette terre. Et même, il est dit, dans Ésaïe, il est dit que ceux qui mourront à 100 ans mourront jeunes. Mais ils mourront à cause de leur désobéissance, à cause de leur rébellion. Satan sera lié. Et ceux qui pécheront, ils le feront absolument de leur propre initiative, sans être tentés par le mal, puisque la tentation vient de Satan. Toujours est-il qu'il va régner avec une verge de fer, et tous les chefs des nations devront venir une fois par an devant le roi des rois à Jérusalem. Il nous est dit dans Apocalypse 12:5, elle enfanta un fils, un mâle. Là, il est parlé de la femme Israël. Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. Il est bien dit, il doit faire paître. Pourquoi? Parce que il y a un temps de délai. Depuis le jour où il est monté dans la gloire, il n'a pas abandonné la terre, mais encore, il a délaissé un temps à l'ennemi. Et frère, qu'est-ce qu'il est dit dans l'Apocalypse? Ils l'ont vaincu par leur témoignage. Voilà. Si nous suivons Christ, Nous ne le suivons pas à cause des bénédictions qu'il nous donne, à cause de l'argent qu'il nous donne, à cause du bien-être qu'il nous donne. Nous le suivons pour lui-même. Combien, dans le passé, n'ont rien eu des richesses de ce monde, mais ils ont persévéré. Nous ne le servons pas pour ce qu'il nous donne, nous le servons pour ce qu'il est pour nous. Il est bien dit, il doit faire paître un délai après son couronnement, car il est déjà couronné. Dès l'instant où il est rentré plus que vainqueur avec son propre sang comme signe de son sacrifice pour ôter les péchés de quiconque croit, il est roi des rois et seigneur des seigneurs. Et le jour vient, au temps marqué par Dieu, où il va prendre possession de ce territoire. Seigneur Jésus, ta parole est la vérité. Seigneur, ô mon Dieu, nous avons tant besoin de toi dans ces temps de la fin, ces temps de déception, ces temps de méchanceté, ces temps de haine. Mais Seigneur mon Dieu, donne-nous d'avoir l'attitude de notre frère Jean. L'attitude de notre frère Jean qui a persévéré. Il a persévéré dans la souffrance. Il a persévéré sous les coups. Il a persévéré, Seigneur, dans des situations de pauvreté extrême. Il a persévéré lorsqu'il n'avait pas de nourriture. Il a persévéré dans les travaux forcés. Il a persévéré car il a gardé devant lui la vision de la gloire et du roi sur son trône. Oh mon Dieu, c'est à lui que tu as confié les dernières pages de la Bible pour nous décrire le roi grand et vainqueur auquel nous appartenons. Seigneur, sommes-nous tous membres du royaume? Ton royaume, il a déjà commencé dans le cœur de ceux qui croient. Est-ce que le royaume des cieux est dans votre cœur? Avez-vous fait votre choix? Si vous n'avez pas fait encore votre choix, frères, sœurs, qui que vous soyez, levez-vous là où vous êtes. Si vous n'avez pas fait votre choix, aujourd'hui, vous pouvez faire votre choix. Levez-vous là où vous êtes, il vous appelle. Il vous invite. Il vous invite à devenir membre de son royaume. Êtes-vous membre de son royaume? Si vous n'êtes pas membre de son royaume, levez-vous, s'il vous plaît. Nous n'allons pas attendre. Seigneur Jésus, tu connais cet auditoire et le cœur de chacun. Tu vois, Seigneur, que pour la première fois, personne ne se lève. Sont-ils tous membres de ton royaume? Je ne sais, Seigneur. Mais j'aimerais les remettre entre tes mains. Et te dire, Seigneur, touche-les, ébranle-les, afin, Seigneur, qu'ils se décident. Il faut une décision personnelle. Il faut une rencontre personnelle. Il faut une expérience personnelle. Si vous ne l'avez pas, alors qu'attendez-vous? Levez-vous. Merci, Seigneur. Ta parole est la vérité. Pénètre par ton esprit dans chacun de nos cœurs. À cette heure, maintenant, et sanctifie, je t'en prie, cette offrande que nous t'apportons. Seigneur, ce n'est pas à des hommes que nous apportons cette offrande, mais c'est au Dieu puissant. C'est vrai, ce n'est pas toi qui vas utiliser cet argent, mais donne-nous la sagesse pour son utilisation, afin d'avoir un rendement au maximum de ces dîmes et de ces deux offrandes qui sont offertes, Seigneur, pour ta gloire, pour l'avancement de ton règne et la proclamation de cet évangile. Donne-nous ta sagesse, je t'en prie, au nom de Jésus.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. dès aujourd'hui? Devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.